La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur Jet FM. Barge russe 459, Voskreseni, qui veut dire résurrection. Voici des phrases récupérées dans le dernier carnet de Bob. D'un point de vue philosophique, c'est ma personne qui se désindividualise, voire dépersonnalise. D'un point de vue religieux, je suis un instrument pour évoluer. Les sentiments, en les croyances, qui se déportent en philosophie ou en religion, ne complètent ni l'un ni l'autre, mais l'entité qui y croit. Il m'a été assez difficile de comprendre la correspondance C12 Art Brut, où il mêle croyance, religion et côté invisible. Robert m'a surpris. Pour mieux le comprendre, j'ai lu Les formes de la croyance de Pierre Janet, du début du XXe siècle, en parallèle d'un livre qui le complète, à savoir Lénine a marché sur la Lune, de Michel Etchanine, 2022. En quelque sorte, Bob continue, prolonge le cosmisme russe, lorsqu'il dit que la croyance disparaît avec les sciences du transhumanisme. Dans les formes de la croyance, de Janet, il y a là un grand secret de l'univers et de nous-mêmes. Les croyances l'appellent Dieu, les non-croyants ne le nomment pas. Cela n'empêche pas le grand secret d'exister, écrit-il. L'harmonie n'a pas encore lieu d'exister sur le monde. Les humains traversent trop souvent des périodes de dépression dans lesquelles la croyance raisonnable ne leur suffit pas.
Shipping bars comes and I wait at a stop to emerge in the next travel, my next travel, or the next travel, my next travel. I'm looking at a bus. In a crypt and drew picture plans. I left to avoid my minds and to find out the disaster, disaster origin. Oh yeah, oh yeah, yeah. I'm looking at the bus. It's a UFO, but I don't mind. Time is gone to change the guard. The contact's not the contact. Oh yeah, the contact's not the contact. Tell me more, my baby. I'm looking at us.
La plupart des êtres humains n'a pas encore découvert l'autre humanité, que celle que le conformisme lui propose. Il n'a que le primat de la rationalité, du matérialisme. La tâche d'une fraternisation universelle à plusieurs dimensions a pour objet de rétablir les liens. Cette même tâche est à la fois technique, éthique et politique. Il faut savoir que la philosophie emmène la raison dans le sacré, en gros. Nietzsche, par exemple, ne considérait pas l'inconnu comme quelque chose de sacré, ni comme un mystère insoluble. Non. Il en recherchait obstinément l'intelligence et la traduction, afin d'acquérir la domination de ses pensées, de lui-même, sur lui-même. Il voulait, par moments même, sacrifier toutes les croyances humaines sur la vie et sur la mort. Tandis que le savant russe Vladimir Vernadsky visait à faire de l'homme un être directement cosmique, à le relier à des énergies qui viennent de l'espace, ce qui lui donne une puissance nouvelle. 1920-1930. Il est né fin 19e. Et avec ces deux exemples, avec Nietzsche juste avant, on peut voir l'évolution du temps. En fait, l'évolution du temps qui nous balade dans le passé. Et là, on peut retaper l'histoire des cycles. Hein. Vernadsky, par exemple, notamment, a été interpellé par Staline dans les années 20. Parce qu'en fait, ce qu'il disait, ça n'allait pas. Ça allait pas avec le totalitarisme, la dictature qu'il exerçait. Et parce que chez les Russes, c'est anti-occidental, forcément. Il y a la croyance orthodoxe, donc le christianisme orthodoxe, qui se mêle à la science. Il n'y a pas de séparation. La science et la religion sont encore mêlées l'une à l'autre. Ça a donné une envergure incroyable, quoi. Mais qui a été baladée. Enfin, pas baladée, pardon. Oubliez ce mot. Qui a été... refusé par l'Occident. Nous sommes occidentaux, donc on ne sait que ça. Occidentaux, pardon. Et maintenant, cette idée de relier tout, chaque être humain par des énergies de l'espace et compagnie, même si ça paraissait dingue au début du XXe siècle, aujourd'hui, avec le transhumanisme, ça devient possible. Sauf que le transhumanisme, il dénie toute croyance. Et à mon humble avis, c'est une erreur. Il faut croire en quelque chose. Si tu ne crois pas, ben encore, j'analysais, si tu ne crois. Les religions, ça emmène. Donc en fait, il faut croire en soi. La religion, c'est justement pour ceux qui n'arrivent pas à croire en eux, on leur donne quelque chose en quoi croire, ce qui, c'est un dogme qui va leur permettre d'avancer, mais pour cette même chose, de constituer, de pouvoir avancer. Sauf que dans les religions, chacun, au bout d'un moment, tout le monde, j'exagère, hein, je caricature beaucoup, les gens qui partaient dans une religion, ils écartaient après, ils n'étaient que leurs interprétations dans les religions. Et si tout le monde fait ça, il n'y a plus de religion. La religion n'est plus suivie. Au début, peut-être, sûrement, la religion était suivie, mais mot à mot. Donc, il n'y avait pas forcément à s'en faire, car il n'y a pas de destruction de voulu ou d'insanité. Je ne sais pas quel mot employer, mais c'est pas mal, c'est pas mauvais, forcément. La religion à l'état pur, si je peux dire, c'est l'interprétation que les croyants, les pratiquants peuvent user en fait de cette religion. C'est ça qui est néfaste. Et il le dit Pierre Janet dans son livre. Il est vraiment fameux. Hein. Tiens, il y a un autre truc, une dernière chose que j'avais pris. Si nous devons quelque jour triompher même de la mort, comme dit Bergson, Henry Bergson, il est clair que nos croyances seront différentes. Je répète, si nous devons quelque jour triompher même de la mort, il est clair que nos croyances seront différentes. Je le redis parce que c'est quand même vachement bien. Si nous devons quelque jour triompher de la mort, il est clair que nos croyances seront différentes. Il est du 20e, 19e, Bergson. Donc déjà, c'est-à-dire qu'il fa... déjà, il y avait une crainte de la mort. Quand il dit triompher de la mort, ça veut dire ne plus en avoir peur et pouvoir l'affronter. Et enfin, même pas l'affronter, c'est l'accepter. Il est clair que nos croyances seront différentes. Parce que déjà, à l'époque, l'occidentalisme fleurissait. Maintenant, elle ne fleurit plus. Elle est devenue un arbre. Il y a un gros tronc très bien, bien large, hein, comme un chêne de plusieurs. Bah ouais, un chêne de 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans. Voilà, c'est ça. Mais nos croyances doivent être différentes. Mais bon, ça, c'est à chacun de le faire. Donc, c'est nos croyances, en fait, c'est. Nos croyances doivent être différentes. Donc, en fait, c'est ne plus croire en des religions. On doit sortir de ces religions, du carcan sacerdotal, et entrer dans une croyance en nous-mêmes afin de pouvoir avancer et changer les choses. Sinon, je sais pas. Quelques articles, quelques de éléments, éléments du mois de février-mars 2022, numéro 194, au sujet de l'article Anatomie du gouvernement mondial, donc bah, au nom de la fluidité, de la simplification des procédures et donc de la liberté de mouvement. Donc ça, c'est par rapport à tout ce qui est ramené, la méga machine planétaire à l'heure de la grande réinitialisation. Réinitialisation, nulle idée n'est plus en vogue que celle d'un gouvernement mondial. À quoi un tel mouvement pourrait-il ressembler derrière l'invocation de biens publics mondiaux à préserver, comme la santé, la paix ou l'environnement? C'est à une reconfiguration inédite des rapports entre secteur public et secteur privé que nous assistons. Comme par exemple ID Wallet, le porte-monnaie sur ton téléphone portable. Ça y est, j'ai un téléphone portable. Un numéro et tout. Peut-être qu'un jour j'aurai un wallet dans mon téléphone. Ce soit un jour on n'aura plus le choix. Hein. Vers un gouvernement mondial, outre le bond en avant dans la surveillance, forcément, Foucault serait là, il serait bleu. Ce qui frappe est le mélange d'intérêts publics et privés. Ok, donc je saute beaucoup de lignes. Hein. Dans ce nouveau monde, les États ne disparaissent pas, mais leur rôle change en profondeur. Tu m'étonnes. Les buts poursuivis sont des fins collectives du peuple, ou si l'État n'est devenu sur la scène mondiale qu'un outil au service des intérêts privés. Je recommence un peu plus haut. Enfin, pour les États les plus puissants qui hébergent les grands intermédiaires mondiaux, notamment les États-Unis, il est de plus en plus difficile de discerner si les buts poursuivis sont des fins collectives du peuple ou si l'État n'est devenu sur la scène mondiale qu'un outil au service d'intérêts privés. On ne sait plus où on en est. Ceux qui savent, c'est le haut modernisme. Ah bah eux, ceux qui gèrent, quoi, les décideurs du monde. Selon l'expression de Lewis Mumford, j'avais lu un bouquin là-dessus, je ne sais plus le titre, que l'on peut nommer la méga machine planétaire, hein. Ce qui reste différencié, enraciné particulièrement. Attends, il faut que je lise au début. Ensuite, à l'intérieur du même article, la privatisation des conflits aura bien lieu. Donc là, ça fait peur. Vers un divorce entre la guerre et l'État. Cette fois, au début, c'était la religion et l'État en 1905 en France. Maintenant, c'est un divorce entre la guerre et l'État. Donc c'est un divorce. Ouais. Parce que pour les États-Unis qui veulent faire la guerre pour gagner de l'argent, par exemple. Bref, passons. La privatisation de la guerre a trois conséquences importantes. Premièrement, le marché de la force s'étend et se diversifie, ce qui génère davantage de conflits armés. L'histoire nous apprend que les guerriers privés déclenchent et prolongent les guerres pour leur profit et peuvent devenir des brigands entre deux contrats. Deuxièmement, la privatisation de la guerre la modifie d'une manière profonde que les gens ne comprennent pas. Lorsque le conflit est marchandisé, les stratégies militaires et commerciales se mélangent. Pensez à Clausewitz qui rencontre Adam Smith. La logique du marché et les tactiques du souk s'appliquent à la guerre. Right. La logique du marché et des tactiques du souk qui s'appliquent à la guerre, nos généraux 4 étoiles ne pensent rien. Les mercenaires n'observent pas les lois de la guerre, mais celles de l'économie. Forcément, c'est à celui qui donne le plus d'argent pour qui on va travailler, parce qu'on aura plus de cartouches à mettre dans notre M16 ou notre Kalachnikov. Donc ensuite, à moins d'un événement inattendu, la privatisation de la guerre aura bien lieu. La force privée est comme le feu, elle peut alimenter une machine à vapeur ou brûler votre maison. Les organisations humanitaires peuvent peut-être engager des mercenaires pour prévenir des génocides et protéger des innocents lorsque la communauté internationale est déficiente. Parce que des fois aussi, ils peuvent faire des trucs bien, les mercenaires. Ouais. Donc en fait, j'ai pris ça, donc le gouvernement mondial, tout ça va se mondialiser à fond la caisse. Hein. Même déjà, on est déjà mal barré. Notamment aussi, il faut savoir que... Ouais, ça n'a rien à voir. Donc, je ne vais pas le dire maintenant. Mais ce que je disais là, le truc que Bob il a écrit, d'un point de vue philosophique, c'est ma personne qui se désindividualise, voire dépersonnalise. D'un point de vue religieux, je suis un instrument pour évoluer. Les sentiments en les croyances... qui se déporte en philosophie ou en religion, ne se complète ni l'un ni l'autre, mais l'entité qui y croit. C'est-à-dire que lui, Bob, il a réussi, c'est pas mal quoi, il a réussi pour sortir de... Bon, c'est pas un mercenaire, hein, c'est pas ce que je dis, mais pour sortir de cette mondialisation, il est sorti de la réalité. Vous vous rappelez ? On a vu ça dans les... Il nous l'a expliqué dans ses premières correspondances. Et moi-même, je vous l'ai expliqué dans les barges russes, les premières, la 450 à 455, 456, et là, on est à la 459. Jusque-là, je vous ai expliqué ce que racontait Bob, et je vous l'ai introduit. C'est ça, en fait. C'est ce que je disais aussi avant par rapport à Pierre Janet et à Michel Elchaninov. Le mec, Bob, il a réussi à sortir, même s'il n'est pas forcément entré dans une religion, mais il a réussi à sortir de la réalité, quoi, avec un grand R, pour prendre confiance en soi, en sa réalité à lui, afin de s'accepter et d'obtenir une croyance, mais une croyance en lui-même. Qu'il puisse procéder à l'harmonie, il doit forcément avoir une harmonie. La sienne n'est pas cachée, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Un jour, vous le verrez peut-être, en chair et en os. D'ici là, je ne sais pas s'il a vraiment envie qu'on le voit, tu me diras. En tout cas, tel est son destin.
La barge russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz. Et Johnny Tivbeck.